10 minutes chronique. Philippe Cadic, les nouvelles d'un truqueur du réel. Quand on lit la bibliographie de Philippe Cadic, on s'aperçoit qu'entre ses débuts où il n'a écrit que des nouvelles et le commencement de la période où il est devenu romancier, sa production a été abondante, pour ne pas dire effrénée. Il proposait des textes de science-fiction parce qu'il avait commencé à publier dans ce genre et que c'était ce que le marché des magazines populaires demandait. C'est ainsi qu'il gagnait sa vie, avec pour conséquence le peu de considération qui a marqué sa réputation d'auteur aux États-Unis, où publier dans des pulps ses recueils en mauvais papier grisâtre n'était pas faire œuvre littéraire. Ainsi, Dick a écrit plus d'une centaine de nouvelles de science-fiction pendant une dizaine d'années, jusqu'à la publication de son premier roman. On pourrait penser que travailler ainsi sans répit n'aurait apporté qu'un résultat médiocre, ce qui n'a pas été le cas. Outre l'intérêt qu'il y a à les découvrir, ces nouvelles annoncent le grand Philippe Cadic. La totalité de cette création, 120 textes réunis dans l'ordre chronologique de leur rédaction, viennent de paraître en 2 volumes chez Gallimard, dans la collection Quarto, édition saluée par la critique, et qui met en valeur tout un pan de la production littéraire de Dick. Écrivant pour la science-fiction, Dick utilise les outils propres à la science-fiction. Les planètes, des robots, des vaisseaux spatiaux, toute une panoplie qu'il n'utilise que pour mettre en scène ses propres idées, ses tourments, au cours d'histoires dans lesquelles se tisse la trame de ce qu'il développera ultérieurement. Les préoccupations de Dick sont d'ordre psychologique, voire philosophique. Ce sont aussi les prémices de ses interrogations mystiques qui apparaîtront plus tard. Mais sans doute ce qui guide l'ensemble est sa paranoïa, ce qui sera le socle de toute l'œuvre et que l'on trouve dès le début dans les nouvelles. Un questionnement sur la réalité de ce qui nous entoure, la perception incertaine du réel, les identités aléatoires, l'angoisse de ne pas être qui l'on croit être. Parfois apparaît un trait d'humour, comme pour rassurer l'auteur lui-même, ce qui n'empêche pas le sentiment d'incertitude finale. Dick excelle dans les situations de retournement, d'empilement de faits qui se contredisent et qui entraînent ambiguïté et vertige. Ces systèmes paranoïaques nous font croire aux souvenirs inoculés, au monde factice, anxiogène, où l'être humain en vient à se méfier de lui-même comme d'un ennemi infiltré dans son propre corps. Ici, rien de pseudo-scientifique, mais la perception d'un monde décor où le temps n'existe pas, où l'espace n'est pas celui du cosmos, mais un univers à plusieurs dimensions, insaisissable, où tout, absolument tout, peut nous entraîner ailleurs, dans un endroit où nous ne nous reconnaîtrions pas tout à fait, mais quand même un peu, juste ce qu'il faudrait pour que le doute qui s'insinue fasse de nous un personnage dickien, ce qu'aucun de nous ne souhaite. Dans L'Imposteur, nouvelle parue en 1953, ce motif apparaît clairement. On le retrouvera au fil des écrits postérieurs de Dick sous plusieurs formes, de plus en plus sophistiquées. En voici quelques extraits.
Un de ces jours, je vais prendre un congé, dit Spencelam, au petit déjeuner. Il se tourna vers sa femme. Je crois que j'ai gagné un peu de repos, 10 ans, c'est bien long.
Et le projet, dit-elle.
Oh, la guerre sera gagnée sans moi. Cette boule de glaise qui est notre planète ne court pas grand danger.
Olam s'assit devant la table et alluma une cigarette.
Les machines à nouvelles déforment les dépêches pour faire croire que les extraspatiaux ont l'avantage sur nous.
Sais-tu ce que je voudrais faire pendant ma permission? Aller camper dans ces montagnes qui entourent la ville, tu sais, à l'endroit où nous sommes allés l'autre fois, tu te souviens?
Dans le bois de Sutton?
Mary avait commencé de desservir la table. Ce bois a brûlé il y a quelques semaines, je croyais que tu le savais.
Probablement un incendie spontané.
Olam parut surpris.
N'a-t-on même pas essayé d'en déterminer la cause?
On se désintéresse de tout. Chacun ne pense plus qu'à la guerre, au vaisseau aiguille. Pouvons-nous penser à autre chose?
Il se leva, éteignit sa cigarette, prit sa veste dans le placard et sortit jusqu'au porche. Le shoot serait là d'un instant à l'autre, le petit engin rapide qui le ramènerait à son bureau d'études. J'espère que Nelson ne sera pas en retard. Il consulta sa montre. Il est près de 7 heures. « Le voici qui arrive, » dit Mary, dont le regard scrutait l'intervalle entre les rangées de maisons. Le soleil luisait derrière les toits, se réfléchissant contre les lourdes plaques de plomb. La colonie était tranquille, peu de gens circulaient. « À bientôt. Tâche de ne pas faire d'heures supplémentaires, Spence. » Olam ouvrit la porte du petit engin et se glissa à l'intérieur, puis il se renversa sur les coussins en poussant un soupir. Nelson était accompagné d'un homme plus âgé. « Eh bien, » dit Olam, tandis que le véhicule prenait un départ foudroyant, « avez-vous appris des nouvelles intéressantes ?»« Croyez-vous que la guerre n'ait plus de sens ?» demanda soudain l'homme plus âgé. « Vous en êtes pourtant partie intégrante. » « Oh, je vous présente le major Peters, » dit Nelson. Olam et Peters se serrèrent la main. Olam étudia le major. « À vrai dire, je suis venu pour m'entretenir avec vous, Mr. Olam. » Olam était perplexe. Il ne comprenait pas. « Vous entretenir avec moi ? À quel sujet ? J'ai l'ordre de vous arrêter comme espion à la solde des extraspatiaux. C'est pourquoi je me suis levé tôt ce matin. Saisissez-vous de lui, Nelson. » Un pistolet s'enfonça dans les côtes d'Olam. Les mains de Nelson tremblaient d'émotion. Son visage était pâle. Il prit une profonde aspiration. Olam lutta pour sortir de sa torpeur. « Ne pouvez-vous pas me dire ? Certainement, je vais vous dire, » dit Peters. « Il y a 2 jours, nous avons été prévenus qu'un vaisseau extraspatial avait forcé la bulle de protection. L'appareil a largué un espion qui avait la forme d'un robot humanoïde. Ce robot avait pour mission de détruire un être humain, désigné d'avance, et de prendre sa place. À l'intérieur du robot se trouvait une bombe U. Notre agent ignorait le processus destiné à faire détonner la bombe, mais il supposait que l'explosion était provoquée par une phrase particulière, un certain groupe de mots. Le robot devait assumer la vie de la personne qui l'avait tuée, se substituer à elle dans son travail et dans ses loisirs. Il avait été construit exactement à son image, et nul ne pourrait distinguer le vrai du faux. Le visage d'Olam se couvrit d'une pâleur cadavérique. La personne que le robot avait pour mission de personnifier s'appelait Spence Olam, un personnage de haut rang dans l'un des projets de recherche. Une bombe à forme humaine, ayant ses entrées au centre du projet. Olam regarda ses mains. « Mais je suis Olam !» Dans cette nouvelle, si le protagoniste est certain de son identité, le lecteur peut en douter. Ici, le robot est un prétexte. Un simple procédé pour créer ce vertige constant, distillé par Dick. Cette obsession, la crainte d'être remplacé, ou bien qu'à notre entourage familier un autre se substitue, nous rendant étrangers à nous-mêmes, est déclinée à l'infini. Dans la nouvelle Le Père Truqué, un petit garçon a compris que son père, qui rentre jovial pour le dîner, malgré toutes les apparences, n'est pas son père. June dévisagea son fils. Celui-ci se tenait droit et rigide, les mains crispées, la figure dénuée d'expression et blanche comme de la craie. Il n'avait touché à rien. Il avait écarté sa chaise le plus possible de la place de son père. Ses lèvres bougeaient sans émettre aucun son. Elle se pencha doucement vers lui. « Qu'est-ce qu'il y a ? » murmura-t-elle. La voix de Charles était à peine audible. « L'autre, c'est l'autre qui est venu. »« Que veux-tu dire, mon chéri ? » enchaîna June Walton à haute voix. « Quel autre ?» Ted sursauta. Une expression singulière traversa ses traits. Elle s'évanouit instantanément, mais le temps d'un éclair, le visage familier de Ted Walton avait disparu. Une lueur froide l'avait illuminé d'un éclat étranger. Ses yeux s'étaient voilés d'une taie décolorée. Il n'y avait plus eu qu'une masse de chair inerte et terne. Puis à nouveau, ce fut le bureaucrate placide, soupant en famille à la fin de sa journée de labeur. Il riait, mangeait et se versait à boire, en parlant de choses et d'autres, comme tous les soirs. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose d'anormal, quelque chose de terrible. Les mains de Charles se mirent à trembler. Il répéta « L'autre !» dans un murmure sourd, puis se levant brusquement, quitta la table et se terra dans un coin. « Va-t'en » hurla-t-il. « Va-t'en !» « Hein ?» gronda dangereusement Ted. « Qu'est-ce qui te prend ?» Il indiqua la place vide. « Tu vas me faire le plaisir de revenir à table. Ta mère n'a pas fait à manger pour des prunes. » Charles tourna le dos et s'enfuit hors de la cuisine. On l'entendit monter les escaliers en courant jusqu'à sa chambre. « Mais que diable ? s'exclama June Walton bouche bée. Ted continua de manger d'un air furieux.
« Ce gamin veut une leçon. Il l'aura, grinça-t-il. Nous aurons une petite conversation, lui et moi, après le dîner. »
Charles s'accroupit sur le palier, aux aguets. Dans l'escalier montait le père truqué, toujours plus près, toujours plus près. Il est remarquable que les personnages entraînés dans ces vertiges sont des citoyens américains ordinaires, surpris dans leur quotidien, où les changements produits par des éléments inexplicables provoquent un basculement dans l'inconcevable. Au cours de la lecture des 120 nouvelles éditées aujourd'hui, par ordre chronologique, on constate l'évolution de ce prérequis. La réalité n'existe pas. Ce qui entraîne une multitude de possibilités de plus en plus élaborées, où colonisation planétaire ou intrusion extraterrestre ne sont que des prétextes, instruments d'un imaginaire obsessionnel, prospérant sur le terreau de l'œuvre à venir. La prochaine fois, nous nous retrouverons pour la suite de cette série consacrée à Philip K. Dick, et ce sera le 30 mai. À bientôt !